Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, la librairie francophone va vous surprendre aujourd'hui avec trois invités étonnants, trois univers éclectiques, un cuisinier marocain, un illusionniste québécois et un menteur braqueur qui a risqué sa vie. C'est une histoire vraie ahurissante, une confession qui va vous troubler tout en vous passionnant. Alexandre Brandy raconte comment il a volé 700 000 euros de bijoux par jeu dans un hôtel particulier après s'être fait passer pour un membre d'une célèbre famille orientale. Bonjour Alexandre Brandy.
Bonjour.
Vous aviez quel âge lorsque vous êtes fait passer pour le neveu de Hariri et de Kadhafi ?
J'avais 20 ans.
20 ans. Premier mensonge ? Première usurpation d'identité, vous étiez dans quel état moral à ce moment-là ?
Celui du jeu. J'avais envie de m'amuser.
Uniquement ça ?
Uniquement.
Alors c'est plus compliqué que ça, hein, on va le voir ensemble. C'est une forme de suicide déguisé.
On peut dire ça comme ça.
Voilà, oui. Car vous aviez un mal-être et on va revenir sur ce sujet. Vous l'avez payé cher, en tout cas 3 ans de prison, dont 2 fermes. Alexandre Brandy est dans cette émission aujourd'hui. Nous serons avec un autre magicien, l'illusionniste Luc Langevin, est un génie des sciences et des mathématiques, un savoir qui lui a permis de monter des tours incroyables. Il décrypte ses illusions dans un livre. Nous décrypterons avec lui l'incroyable. Et puis il sera question de la cuisine marocaine avec un chef cuisinier comédien qui croise les saveurs et les influences.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, 4 libraires nous accompagnent pour cette émission. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle libraire pour représenter le Canada. Elle est à Québec et c'est Marie-Hélène Vaugeois. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez donc la librairie Vaugeois qui porte votre nom. Où est-elle exactement cette librairie ? Que porte-t-elle ?
À l'époque, c'était la ville, s'appelait Sillery. Maintenant, la ville a été fusionnée avec la ville de Québec. C'est la première ville à côté de Sillery, lorsqu'on va vers Sainte-Foy, vers l'Université Laval, assez proche du fleuve, sur l'avenue Mégoire. C'est une très, très belle rue commerçante.
D'accord. Que voit-on à travers la vitrine, par exemple ?
La SAQ, la Société des alcools du Québec, on aime beaucoup ça.
La Société des alcools. Bon, avec modération, l'alcool, hein, je le rappelle.
Avec modération, tout à fait.
Vous portez quel genre de livre dans cette librairie?
Essentiellement, c'est une librairie généraliste, mais on D'accord. aime beaucoup le livre québécois, la littérature québécoise, les essais politiques et l'histoire.
Très bien. L'histoire du Québec. Bon, bienvenue dans la librairie francophone, Marie-Hélène.
Merci.
Bonjour Thomas Hausser.
Bonjour Manuel.
Vous représentez la France cette semaine, vous êtes libraire à côté de Paris, à Puteau, à proximité de la Défense, et vous êtes libraire dans la librairie...
L'Amandier.
L'Amandier, voilà, merci Thomas.
Merci,
bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique, vous Annick, libraire à la Hulpe dans oui. la librairie de la Mazrine, à côté de Waterloo, hein, c'est ça ?
Oui, pas bien loin.
Pas bien loin, c'est ça. En Suisse, c'est le retour de Dominique Bressou. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose, avec toujours la pêche qu'on vous connaît. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Abdel Alaoui.
Bonjour Emmanuel.
Nous parlerons de la cuisine marocaine avec vous, une cuisine métisse qui mélange les genres et nous aurons quelques idées étonnantes tout à l'heure pour nos repas de ce week-end. Mais on commence toujours cette émission par une anecdote personnelle étonnante que je découvre en même temps que tout le monde. Faites-la grimace, alors, je vous sens venir.
Non, allez-y. Une anecdote, ouais, je travaille à Londres chez Pierre Gagnère, dans un restaurant qui s'appelle Le Sketch, et donc chacun se faisait à manger, c'était spécial, c'était comme ça, en Angleterre, chacun se fait à manger dans les cuisines, et moi je m'étais fait un petit bar avec un peu de gingembre dedans, des fraises, et des olives vertes, donc le mélange fraise-poisson n'était pas très connu, en tout cas c'était original, et Pierre Gagnère est passé par là, enfin moi j'avais laissé traîner un peu mon assiette, il est resté un petit morceau, il a goûté cette assiette, et il a adoré le mélange fraise, olive verte et bar et gingembre. Et du coup, il l'a mis à la carte et ça a été une belle surprise pour moi. Surtout que c'était un rêve pour rentrer chez Pierre Gagnère. Et en plus, j'avais mon plat qui était à la carte au Sketch pendant des années.
Ça donne envie, ça fait saliver en tout cas. Parce que le bar, je le vois très bien avec des fraises.
Bah, écoutez,
moi.
J'en ai ramené avec
des olives. Sortez-le, je vous en prie, on va manger tous ensemble. Merci pour cette histoire. Le chef cuisinier Abdel Alaoui est dans la librairie francophone cette semaine. « et on se retrouve dans nos studios de Montréal. Bonjour Luc Langevin.
Bonjour Emmanuel.
Votre livre La science de l'illusion décrypte la magie par le prisme de la science. C'est un récit qui nous fait parfois rêver, qui nous laisse perplexes aussi. On peut trouver des vidéos sur internet avec vos illusions face à des personnalités. Il y a des moments à la fois émouvants et surprenants. Vous êtes un grand artiste Luc, vraiment. Tout est dans l'émotion. Pour créer de l'illusion, il faut un contexte, il faut raconter une histoire.
Tout à fait, oui, je crois que c'est la plus belle magie qu'il y a dans l'illusion, finalement, de faire rêver par l'histoire, par le contexte dans lequel les miracles sont présentés. Ça fait toute la différence, selon moi.
Les miracles, vous parlez de miracles encore?
Ouais, ben je dirais que autant que la magie que les miracles, ils se produisent dans la tête des gens plutôt que dans la réalité. C'est ce que je raconte dans mon livre, d'ailleurs.
Ouais. Alors, vous arrivez à nous fasciner avec des tours simples utilisant des élastiques ou des bagues. Ce n'est pas le plus spectaculaire, mais c'est intriguant quand même. D'autant plus, je dirais que ça s'explique, car vous le dites dans le livre, nous avons tous une faille dans le fonctionnement de nos yeux et de notre cerveau.
Oui, tout à fait. Puis, en fait, on a plusieurs failles dans notre cerveau que les illusionnistes peuvent exploiter pour créer des illusions. C'est ce que je décris dans le livre. Donc, je parle de plusieurs failles. On dit failles, mais en fait, ce sont des raccourcis que le cerveau prend pour nous rendre plus efficaces. Mais dans ces raccourcis, il y a matière à exploiter certaines choses pour les illusionnistes et générer une émotion d'émerveillement. Donc.
Par exemple, qu'est-ce qui cloche dans nos yeux?
Plusieurs choses. Par exemple, ben, évidemment, nos yeux ont une résolution si on veut limiter, c'est-à-dire il y a une limite à la dimension des objets qu'on est capable de percevoir. Il y a une limite au mouvement, la rapidité des mouvements qu'on est capable de détecter. Notre cerveau, en fait, décode environ 30 images par seconde. Donc, si un mouvement est fait en moins d'un trentième de seconde, ben, il est complètement invisible à l'œil. On a aussi des phénomènes comme la pertinence rétinienne qui est, si je vous éblouis avec une lumière très forte, une fois que j'aurai éteint la lumière, ben pendant quelques secondes, vous serez encore aveugle, si on veut, puisque la lumière aura saturé certaines neurones dans votre cerveau et tout. Donc, tout ça, ce sont des failles qui sont exploitables par les illusionnistes.
Donc, la magie, c'est une mécanique de précision. Vous pouvez accomplir comme ça des gestes si rapides qu'on ne peut pas les voir?
Tout à fait. Ça demande de l'entraînement, mais c'est ce que plusieurs magiciens font. C'est possible d'y arriver et c'est une des façons par lesquelles on peut créer des illusions.
Ouais. Alors c'est absolument incroyable, magique j'allais dire, Luc Langevin. Dans ce livre, vous extrapolez aussi, vous dépassez le simple récit d'un illusionniste. Il y a des réflexions philosophiques et une grande analyse de la science et des mathématiques. Parce que c'est ce savoir-là qui vous permet, vous, d'imaginer des tours.
Tout à fait. J'en ai fait ma signature. En fait, lorsque j'ai voulu commencer à percer dans le monde de la magie, de l'illusion, je devais me trouver une façon de faire qui était propre à moi. J'avais remarqué que tous les grands illusionnistes, que ce soit Copperfield, Houdini, Robert Houdin, ils avaient tous pris quelque chose qui était autre que la magie. Ils l'avaient intégré dans leur magie. Et moi, depuis tout jeune, je m'intéressais à la science, à la physique, au cerveau. Et donc, je me suis demandé comment je pourrais utiliser ces connaissances pour améliorer ma magie. Et donc, j'ai trouvé dans les failles du cerveau, dans l'exploitation aussi de phénomènes scientifiques qui sont méconnus par le grand public. Je me suis rendu compte, en fait, qu'une science qui est inconnue au grand public, c'est pratiquement de la magie. En fait, c'est la magie du 21e siècle. Donc, j'ai exploité tous ces outils-là pour créer une magie, je pense, qui est moderne, qui est différente de ce qu'on voit ailleurs et qui sort beaucoup du cliché du lapin qui sort du chapeau ou de la femme sciée en deux. Ça, c'est définitif.
Ça, c'est sûr. Et ça va très loin, Luc Langevin, comme avec le chorégraphe et danseur québécois Jean-Marc Généreux, devant qui vous allez disparaître pour laisser la place à un enfant. Simplement derrière un rideau que vous montez devant vous, il y a une vidéo sur internet, écoutez un extrait.
Ok, t'es prêt Jean-Marc?
Absolument.
Écoute Jean-Marc, j'ai avec moi ici le premier jeu de cartes que j'ai possédé dans ma vie. J'avais 14 ans la première fois que je l'ai utilisé en spectacle. Jean-Marc, mais réellement, si on pouvait reculer dans le temps? Personnellement, moi, c'est à l'époque où j'avais 14 ans que j'aimerais revenir, au moment où j'ai goûté aux applaudissements pour la première fois avec ce jeu de cartes-là. Je me place en position, juste ici, mais tu peux garder la tienne.
Ouais.
Je vais prendre juste ça ici. Voilà. C'est bien mélangé?
Ouais.
Oui. Jean-Marc, c'est à l'époque où j'avais 14 ans que j'ai appris à peu près tout ce que je sais faire avec un jeu de cartes. C'est, je dirais, c'est une époque que je revivrai n'importe quand.
Et t'es où, là?
Alors, Alors, il y a un enfant qui apparaît.
T'étais pas mal plus beau.
À ce moment-là.
Waouh.
J'aimerais reprendre mon jeu, s'il vous plaît.
Et cet enfant vous ressemble, Luc Langevin. C'est incroyable.
En fait, je donne l'illusion de rajeunir à l'âge de 14 ans. Je pense qu'on l'a, on a bien compris avec l'extrait sonore.
Ouais.
Donc, c'est un bel exemple. Un bel exemple d'une illusion que j'ai créée qui allie à la fois science, émotion et interaction avec un artiste. C'est une des illusions qui m'a fait connaître le plus grand succès, je pense. On m'en parle beaucoup. Elle vient toucher une corde sensible. Puis j'ai pu la créer grâce à certains principes scientifiques aussi. Donc voilà.
Alors Jean-Marc, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir contribué à ce qu'un jour je devienne un grand magicien.
Voilà, il en pleure d'émotion, Jean-Marc Généreux. Et je vous avoue, Luc Langevin, que quand j'ai regardé cette vidéo, moi aussi, j'ai eu un peu la larme à l'œil, à ma grande surprise, parce que c'est le genre de truc qui me touche pas d'habitude. Mais là, vraiment, vous êtes capable de disparaître devant lui. C'est incroyable. Vous êtes capable aussi, alors on va pas en parler là, mais dans des spectacles, de vous téléporter d'un endroit à un autre. Comment est-ce possible? Comment peut-on croire à ça avec un esprit cartésien?
C'est difficile justement de faire croire de telles choses à une personne adulte, des gens, je dirais, qui ont un cerveau mature, parce que les enfants peuvent croire à peu près n'importe quoi, mais mon but, moi, c'était vraiment d'offrir une magie à une clientèle adulte, entre guillemets, parce que la sensation d'émerveillement, on la vit au quotidien lorsqu'on est tout jeune, mais plus on vieillit, plus elle est difficile à obtenir.
Vous ne répondez pas, Luc. Vous répondez en pas fait, parce que vous voulez pas donner le truc, je sais.
Non, mais j'y viens. En fait, l'usage de la science pour moi, c'est quelque chose qui est crédible. C'est-à-dire que lorsqu'on voit quelque chose qui est impossible, ça nous prend une piste d'explication. Si c'est trop impossible, on va dire qu'il y a un trucage vidéo ou qu'il y a quelque chose. Mais lorsque c'est bien fait, on arrive à faire rêver un adulte. Après, je vais pas vous dévoiler évidemment le secret, parce que le secret est beaucoup moins intéressant que l'émotion que vous avez vécue en voyant le numéro.
Alors, juste un petit indice, vous êtes passionné par la théorie de la relativité, selon laquelle l'espace et le temps sont liés et donc, on l'apprend à l'école quand on fait des études scientifiques, l'un et l'autre relatifs. On peut aller loin avec cette pensée scientifique, évidemment. Il faut savoir, par exemple, que le temps passe beaucoup plus vite, vous en êtes tous aperçus, lorsque vous êtes occupé ou en mouvement que lorsque vous êtes oisif. Et c'est ça la question de la relativité. Et Luc Langevin l'utilise. On va écouter la BO de votre livre, Luc. Un son, une variation de notes, parfois la musique est aussi magique. Elle nous emporte comme ça dans une émotion inattendue. Vous avez choisi le groupe Coldplay.
Oui.
Et le titre The Scientist, étonnant, le savant. On écoute un extrait et on en parle. La magie, c'est du théâtre. Sur scène, je joue un rôle, j'incarne un personnage dont les moindres faits et gestes sont calculés pour que vous ayez envie de le suivre de l'autre côté du miroir et basculer dans le pays des merveilles. D'ailleurs, bien que je ne me considère pas comme un acteur à proprement parler, je me sens très proche d'eux. Moi aussi, je fais croire des choses au public. Je raconte des histoires, j'invente un univers. Comédiens et magiciens, nous avons le même but, vous divertir et surtout vous faire rêver. Le savant, il est là pour faire rêver Luc Langevin.
Je pense que oui. C'est pas nécessairement ce que font les savants habituellement, mais je crois que ça peut s'entendre. Oui, un savant et un créateur d'émotions, si on veut.
On va laisser la place à nos libraires. Trois ont lu votre livre, Luc Langevin, le Canada, la France ou la Belgique. On commence par qui, Luc?
Oh, disons la Belgique.
La Belgique. Annick Dor, c'est à vous.
Oui, moi j'ai adoré votre livre, c'est vraiment une découverte parce que c'est vrai que je ne connais rien au monde de l'illusion et j'ai trouvé passionnant ce mélange de science et de magie. C'est vraiment un excellent moyen de faire aimer les sciences aux jeunes, on devrait vraiment y penser dans les écoles. Puis voilà, j'ai été séduite par votre passion totalement contagieuse. Alors j'ai évidemment pas résisté, j'ai plongé sur YouTube pour visionner certains de vos tours qui sont totalement bluffants, donc vraiment une belle découverte.
Thomas Auxerre pour la France.
Alors bah oui, bah, écoutez, moi au début, le sujet du livre ne semblait ne pas me passionner. Je me suis dit, oh, ça c'est pas pour moi. Et puis en fait, j'ai été vraiment agréablement surpris. C'est un essai intéressant. C'est une belle déclaration d'amour aussi aux sciences, à la psychologie que vous utilisez dans vos illusions. Tout ça d'ailleurs est très bien vulgarisé. J'ai appris des choses. Et puis j'ai bien aimé aussi votre rapport fusionnel à votre métier, le fait que vous donniez un petit peu vos trucs, mais sans trop en dire. Je pense que c'est à conseiller aux fans de magie et d'illusions, mais pas uniquement, hein, vraiment.
Exactement. Marie-Hélène Vaugeois à Québec. Quel est votre avis?
Moi j'avais peur au début en commençant le livre d'avoir des révélations sur les fameux trucs des magiciens parce que j'aime bien être surprise. Mais l'approche scientifique m'a à la fois rassurée car je peux garder mon âme pure justement et m'a intéressée car comprendre les dessous des numéros des magiciens m'a fait réaliser tout le travail qui est derrière une performance et le grand besoin de maîtriser les théories scientifiques. C'est passionnant.
Vous avez séduit nos libraires, Luc Langevin.
Ah, ben vous m'envoyez ravi. En fait, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ces commentaires parce que c'est exactement le but visé, en fait. Quand j'entends ces réactions-là, c'était tellement ce que je voulais pour le livre. Vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça.
Vous dites plusieurs fois dans ce livre qu'il y a des choses impossibles à faire. C'est scientifique. Les mentalistes sont des charlatans et ceux qui prétendent pouvoir faire bouger les choses à distance par la force de l'esprit sont des menteurs. Ce sont des illusionnistes, ce sont vraiment des charlatans, Luc?
Ben oui, ben tout dépend comment ils présentent ce qu'ils font. Si un mentaliste prétend faire de l'illusion, donner l'illusion de lire dans les pensées ou de déplacer des objets à distance, ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il y a une prétention que tout ça est réel, qu'on a un don, un pouvoir surnaturel, là, j'ai un peu plus de difficultés, puis j'écris aux charlatans. Ouais.
Alors vous, pour faire bouger les objets, vous utilisez la force magnétique, hein, vous ne vous en cachez pas. On peut faire bouger des objets à distance, on peut les coller ensemble, on peut les faire tenir, il y a un transfert d'électrons, d'ions, on sait faire ça, voilà, on peut le faire avec une paille par exemple, et vous le faites avec des objets bien plus gros qu'une paille. Donc c'est ça, c'est la force magnétique.
Oui, ça ne m'a pas dérangé de révéler cette partie-là dans le livre, parce que je trouve que l'explication est magique en tant que telle. La force magnétique, c'est une force qui est invisible, qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui agit à distance. Donc si on montrait ça à des gens il y a deux ou trois siècles auparavant, ça, ils auraient appelé ça de la magie. Donc je trouve que l'explication reste magique même quand on la connaît.
On va terminer avec l'intuition, Luc Langevin. Beaucoup d'entre nous fonctionnent à l'intuition ou ont même parfois des prémonitions. Comment elles fonctionnent, ces intuitions, scientifiquement parlant?
En fait, ce sont des raisonnements inconscients. L'intuition, on a parfois l'impression que c'est quelque chose de divin qui nous vient à l'esprit un peu par un canal obscur. Mais en fait, c'est prouvé que ce sont des raisonnements très logiques, mais qui se font inconsciemment, un peu à notre insu. Le résultat de cette réflexion-là nous vient comme une intuition, comme si ça tombait du ciel, alors qu'en fait, c'est une partie inconsciente de notre cerveau qui l'a fournie par l'expérience, par le fait qu'on a répété certaines erreurs. Donc, lorsqu'on vient pour la répéter une nouvelle fois, il y a quelque chose qui nous dit de ne pas faire les choses comme on le fait habituellement. Donc, ce sont des procédés inconscients du cerveau, finalement.
Et vous notez aussi que les imperfections de la vie permettent l'illusion. Si tout était parfait, rien ne serait possible. Et là encore, votre réflexion sort de son cadre artistique et scientifique. Vous encouragez le lecteur à vivre, dites-vous, dans les courbes, à prendre la tangente. C'est joli, ça.
Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs le message de mon nouveau spectacle dont je viens de commencer la tournée.
Ah bon?
Tout à fait. Je me suis rendu compte après plusieurs réflexions, que d'emprunter justement des chemins qui sont plus longs que la ligne droite entre deux points, souvent nous fait vivre un voyage qui est beaucoup plus intéressant que le chemin le plus court, et que c'est une nourriture pour l'âme qui est beaucoup plus riche, qu'on apprend beaucoup de nos imperfections, de nos erreurs, alors que quand on a tout facilement, ben y a pas de matière, y a rien à en tirer. Donc si je le résume rapidement, c'est ce que je dirais par rapport à ça. Ouais.
Voilà, il faut des épreuves et des imperfections. On va retenir cette leçon pour le week-end. Merci beaucoup, Luc Langevin.
C'est un plaisir.
Merci, grand plaisir partagé. La science de l'illusion est parue aux éditions Michel Lafon. Un livre surprenant, fascinant à lire en allant voir les tours sur Internet. Pour une fois, allez-y, pour vivre des moments qui vont vous plonger dans une grande perplexité. À bientôt, Luc.
À bientôt.
À suivre, un livre de cuisine qui nous emmène dans les saveurs du Maroc. Une émission éclectique et étonnante aujourd'hui, je vous avais prévenu. Et encore, vous n'avez rien entendu. La fin de l'émission va en troubler plus d'un. Et voici le tout nouveau titre de Barbara Carlotti. Lui aussi étonnant, vous allez voir. Et c'est dans votre librairie francophone.
J'avance sans peur dans la dead zone de toute la barre, tenir aux choses à marcher seul sur le volcan, le feu déclenche parfois le vent, le doute est un collier d'épines, je reste pour percer l'énigme, l'énergie si
titre de Barbara Carlotti, voir les étoiles tomber sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Abdel Alaoui est dans la librairie pour un livre de recettes marocaines, Alimentation Générale, est paru aux éditions de La Martinière. Abdel, vous avez 38 ans, vous êtes chef cuisinier et comédien, vous mélangez les genres, votre cuisine est métisse, vous dites casser les codes. Quels codes ?
Casser les codes, d'une part, la cuisine, quand on pense que c'est difficile, finalement c'est très simple. Et comédien, parce que j'aime jouer de la cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est comme une mise en scène. Il y a le chef qui est le metteur en scène, ouais. Et les cuisiniers qui sont un peu les acteurs.
C'est quoi les aliments alors ?
Bah les aliments, ouais, c'est voilà, mes idées d'humeur, voilà, c'est ces intonations qu'on peut mettre dans un jeu. Voilà, c'est exactement ça, de l'acidité, du sucré.
Ouais. Vous avez travaillé à Paris, au Japon, à Londres, mais votre inspiration, c'est la cuisine de votre enfance. Celle du Maroc qui mélange les saveurs. Par exemple, vous donnez la recette des tomates provençales aux amandes et à la coriandre, ou encore la chorba provençale.
Exactement. Ouais. Alors, les amandes bellouses, que j'appelle ça les tomates provençales, et je les appelle les tomates bellouses. Je me suis dit, on va faire une chapelure à base d'amandes avec de la coriandre. Je vais mettre ça sur une tomate avec un peu d'huile d'olive ou d'huile d'argan. Je mets ça au four et du coup, on a une tomate provençale qui est revisitée, qui est retravaillée et ça donne tout de suite une touche orientale ou marocaine.
Oui, en restant finalement dans la tradition. tradition de la tomate provençale.
Ouais, et là on est exactement la dans la double culture. Voilà, on est côté français parce que j'ai grandi en France et je suis né au Maroc. Du coup, c'est là où on casse finalement les codes parce qu'on y met un peu de Maghreb, un peu de Maroc, un peu de France. Et c'est une double culture que j'ai.
Il y a le concombre mariné à la fleur d'oranger.
C'est très bon, très simple à faire.
Très simple à faire. Ou un classique, les carottes au cumin. Alors le cumin et la fleur d'oranger, c'est important dans la cuisine marocaine.
Très important. L'épice qu'on connaît le mieux au Maroc, c'est le cumin. On va s'arrêter dans un coin de rue à Marrakech. On va prendre un petit pain qu'on appelle le bot-bot. On va l'ouvrir en deux. On va mettre quelques keftas dedans. Et on parsème à chaque fois nos viandes ou nos légumes par du cumin. Donc c'est vraiment l'épice nationale. Ouais. Et après, on a la fleur d'oranger qui est.
Magnifique. Ouais.
Magnifique. Voilà, ça parfume.
Dans un petit flacon bleu, généralement.
Ouais, on la vend dans un petit flacon bleu. On va pas dire la marque, mais au Maroc, je l'ai. Moi, je connais le mec qui a la fleur d'oranger. Donc si vous voulez lancer un business de fleur d'oranger, j'ai tous les codes.
C'est vrai. Non, oui, il l'a fait lui-même.
Non, mais je veux dire, voilà. C'est, ouais. Et j'en mets partout aussi de la fleur d'oranger, même pour nettoyer mes étagères, parce que ça donne une belle odeur chez soi.
Un bon plat marocain, c'est un aller-retour en classe éco. Vous écrivez ça dans le livre.
Exactement.
Pourquoi en classe éco ?
Parce que c'est des produits pas très chers finalement, qu'on prépare facilement. Ouais. On prend jamais de retard, alors que dans les classes éco, en général, il y a du retard. Mais là,
c'est la nature. Le produit, c'est la nature. La cuisine marocaine est fondée sur les produits naturels.
Exactement. C'est des produits qu'on a. Alors, elle est très végétarienne. On a l'impression qu'au Maroc, on mange beaucoup de viande, alors qu'on a ce qu'on appelle les kemia, c'est des petites entrées qu'on vous sert avant de commencer un plat. Donc, il y a pas mal de légumes. Il y a la salade de concombre, il y a la salade de carottes, il y a le
chou-fleur frit.
Voilà, les chou-fleur frit. Il y a le zalouk, qui est le caviar d'aubergine. Il y a la méchouilla, qui est du poivron grillé, cuit dans l'huile d'olive et de l'ail.
Pois chiche à la harissa aussi.
Pois chiche à la harissa que je fais. Il y a une
gratin
salade de betterave.
Gratin de courgette à la menthe.
Voilà, gratin de courgette. Exactement. Donc, c'est très végétarien. Oui. D'ailleurs, je crois qu'il y a à peine 20% de viande dans ce livre. Mais je voulais aussi revenir sur ce côté végétarien et ce côté végétal qu'on a au Maroc.
Alors, justement, vous avez choisi une recette de votre choix, une recette accessible à tous, où que l'on soit à travers le monde. Vous allez nous la donner sur la musique de Saïd Chraïbi.
Alors vous prenez 3 concombres, 2 tomates. Alors 2 tomates très très. Alors ça c'est une petite astuce. Moi je les brûle avec un petit chalumeau ou sur du feu pour la monder. Donc monder c'est enlever cette peau de tomate et ça va lui donner un petit côté fumé à cette tomate. On va couper tout ça en brunoise, donc en gros dés ou en petits dés. On va mélanger ça avec un peu d'huile d'olive, de la fleur d'oranger, du vinaigre blanc, un peu d'oignon rouge, un tout petit peu de sucre et du sel. Et voilà, on mélange tout ça avec un peu de coriandre fraîche, de la menthe, et on sert ça sur un petit topsé, donc une petite assiette avec du bot-bot, qui est le pain marocain. Et c'est une recette qui va bien, parce qu'il fait beau en ce moment. On a des petites tomates qui arrivent tout doucement, et du concombre, et on la prépare pour cet été.
Et dans cette tomate concombre, on peut mettre des épices aussi. Ouais. Abdel Alaoui, les épices, c'est très important dans votre livre. Le ras el hanout, par exemple, qui comporte 20 épices différentes.
Alors 20 épices, ouais, c'est une légende, hein, parce que ça peut aller de 15, 10, 15, 20.
Enfin, bon, quelques
épices. Ras el hanout, ça veut dire la tête de l'épicerie. Ouais. Ras, c'est la tête, et el hanout, c'est l'épicerie. C'est comme l'alimentation générale qu'on a ici. Quand on arrive chez un épicier au Maroc, et qu'on lui demande un mélange d'épices, il nous dit, bah, regardez à la tête de l'épicerie, il y a plein d'épices, et faites-vous votre mélange.
Ah, d'accord.
Du coup, ça s'est appelé ras el hanout.
Et voilà. Avec ça, on parfume les viandes, les poissons, c'est ça ?
Bah, c'est le produit magique. Si ça manque de goût, votre sauce pour le couscous, vous mettez ras el hanout. Si il manque du goût pour votre salade, vous mettez ras el hanout. Voilà, ras el hanout, c'est vraiment le produit magique.
Et si c'est mal dosé ? Si on a choisi les mauvaises épices,
ouais, c'est tout fonctionne. On peut faire une pâte de ras el hanout et ça guérit l'estomac.
Ça marche quoi qu'il arrive.
Ça marche quoi qu'il arrive.
Bon, il y a 2 libraires qui ont lu votre livre, Abdel Alaoui, la Belgique et la Suisse. Annick Dor, en Belgique, quel est votre avis ?
Ben écoutez, moi je me suis plongée avec beaucoup de curiosité dans vos pages. Il y a certes quelques recettes que je compte bien essayer, qui mettent vraiment l'eau à la bouche, qui donnent envie. Mais c'est vrai que dans l'absolu, j'ai pas perçu ce qu'il y avait d'original dans ce livre-ci. On est dans quelque chose au fond d'assez classique, avec des ingrédients et des techniques de cuisson qui sont connues. Et donc je m'attendais à une cuisine traditionnelle revisitée et plus modernisée, quelque chose de plus percutant que ce que vous proposez. Donc j'étais un petit peu déçue, même s'il y a plein de recettes qui ont l'air délicieuses.
La nature, on vous a dit, la simplicité, la nature. Revenons à l'origine. Dominique Bressou, pour la Suisse, vous n'êtes pas d'accord ?
Pas tout à fait, non. Moi, faire la cuisine, déjà, j'aime, j'adore. Et puis, ces recettes, elles ont le mérite d'être facilement réalisables et en plus peu onéreuses, semble-t-il. En fait, justement, l'absence de sophistication et dans la description et pour les illustrations, ça fait qu'on regarde ce livre comme un carnet réalisé à la maison. Presque un petit peu beaucoup, en fait. On a un peu parfois l'impression qu'il s'agit plus d'un style de vie que d'un vrai bouquin de recettes avec ses secrets.
Mais c'est vrai que c'est un style de vie.
Ouais, dans sa façon, dans la d'être, façon de cuisiner, de préparer, de se mettre un peu dans l'ambiance aussi de ce qu'on va faire. Fallait que je montre aussi cette cuisine que j'ai l'habitude de faire.
Ouais, oui, et puis un style de vie, c'est vrai, avec la règle des 3 F que vous citez d'ailleurs, festin, fête, famille. C'est ça, hein, c'est la recette d'un plat réussi.
C'est une cuisine conviviale, ouais. C'est une assiette qu'on pose au milieu de la table et tout le monde mange dans la même assiette. C'est la convivialité, c'est le festin et c'est la fête, parce que c'est toujours la fête chez les Alaouis.
Quid du bon couscous, Abdel Alaoui ? C'est le plat du vendredi au Maroc. Mm-hmm. Quel est le secret d'un bon couscous qui est, dit-on, le plat préféré des Français d'ailleurs ?
Il faut préparer déjà sa viande, il faut bien la mariner, bien, si possible la veille, on la mijote tranquillement. Parce que ce qui est important, si c'est que cette viande qu'on va venir mélanger à la semoule et aux légumes, il faut qu'elle fonde dans la bouche. Donc ça cuit pendant des heures et des heures, vraiment à feu doux, parce que c'est aussi ça le secret de la cuisine. Il faut y aller, il faut prendre son temps et il faut que ça cuise à feu doux pour une viande bien tendre. Et on vient jeter ses légumes à la fin, à une demi-heure de la fin de la cuisson. Et voilà, on dépose nos petits pois chiches dans un coin de cette assiette. On fait une tfaya. Une tfaya, c'est des oignons caramélisés avec un peu de fleur d'oranger et de la cannelle. Qu'on pose aussi, ça va apporter un petit côté sucré-salé avec ses légumes et ce morceau d'agneau, de poulet ou quelques keftas aussi posés par-dessus. D'ailleurs, une kefta bougnoulaise, c'est une kefta que je fais, c'est une bolognaise que je revisite, j'ai appelé ça la bougnoulaise.
La bougnoulaise.
La bougnoulaise, j'y suis allé. Là, c'est...
Référence au mot que j'imagine.
Ah, bougnoule, c'est très bien. Et on pose ça sur la semoule avec la sauce tomate. Oui. Ça donne une kefta bougnoulaise que je cherche dans mon restaurant d'ailleurs.
Oui, il y a deux, trois choses comme ça que j'avais relevé d'ailleurs, hein, le croque-missiou.
Croque-missiou. Alors le croque-missiou, c'est effectivement un croque-massieu. Vous prenez le bot-bot que vous coupez dans la largeur, enfin à l'intérieur. Le bot-bot, donc ce fameux pain marocain à base de semoule fine, qu'on va faire griller avec de la roquette, encore une fois du fromage, on peut y apporter n'importe quel fromage qu'on veut. Du méchoui de veau, donc c'est un veau qui est cuit à basse température 4-5 heures, et on va le trancher finement, on va mettre ça dessus. Et on va reposer l'autre face de bot-bot par-dessus et on fait griller. Et du coup, on a un croque-monsieur.
Croque-monsieur. La légèreté, c'est le mot banni de la cuisine marocaine. Malgré le fait qu'il y a des produits naturels et beaucoup, effectivement, de légumes. Mais c'est assez lourd. Parfois, c'est une cuisine qu'on mijote. C'est vrai, vous le disiez tout à l'heure. Il y a des cuisines comme ça qu'on fait dans l'instantané et d'autres qu'on mijote. En Italie, c'est plutôt instantané. Mais au Maghreb, en Orient, on mijote longtemps.
Alors, on mijote beaucoup, mais comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de salades. Pas mal de produits végétariens et c'est deux cuisines complètement différentes. Donc on a ces plats qui sont ancestraux, hein, qui sont là depuis des siècles et des siècles, qu'on laisse mijoter, qu'on laisse cuire au coin d'un feu, et on a ces petites salades qui sont vraiment fraîches et la plupart des salades d'ailleurs elles sont crues. On a des salades de fenouil, concombre, betterave, tout est cru, tout est croquant, tout est acide, et voilà, donc c'est deux cuisines complètement différentes.
Ouais, la cuisine à la main aussi, l'importance de la main. Vous montrez d'ailleurs des photographies avec des mains qui travaillent. On fait la cuisine avec ses mains.
C'est important pour moi de le montrer dans ce livre, justement cette photo de la main qui travaille, qui égrène, qui coupe, qui enlève la peau de la tomate, qui goûte aussi, parce qu'on mange à la main, finalement, dans le Maghreb.
Il y a peu d'ustensiles, finalement.
Il y a peu d'ustensiles.
Y compris pour la faire. C'est-à-dire qu'on utilise à main nue, et c'est très charnel, c'est très sensuel, finalement.
C'est très sensuel, et on arrive même presque à connaître l'assaisonnement à travers le toucher, quoi. On n'a pas besoin de goûter si c'est bien huilé, si c'est bien salé.
On a
si
une sensation,
On a une sensation, et la main, moi, je reçois pas les goûts avec une fourchette comme à la main, quoi.
Bon, les gâteaux, ça, c'est pas léger du tout. Vous savez que les desserts marocains, c'est terrible. Cake chocolat poire date ou cake pomme fleur d'oranger, c'est encore le plus léger. Vous donnez la recette des cornes de gazelle. Alors ça, c'est le grand fantasme, les cornes de gazelle. On se dit que c'est impossible à faire, c'est trop compliqué.
Et finalement, c'est hyper simple. Et l'astuce d'une bonne corne de gazelle, c'est qu'il faut voir à travers cette farce qui est à base d'amandes, de fleurs d'oranger. Et donc, c'est une pâte très fine, genre de pâte sablée, en fait, qu'on va étaler sur un plan de travail. Il faut vraiment qu'elle soit fine, on voit presque à travers. Et on va poser cette petite farce qu'on a préparée. On va replier, on va faire une demi-lune. Et on va juste à peine la cuire au four. Faut qu'elle reste blanche. Et voilà, c'est suffisant.
Voilà, et on vous servira avec ça un thé à la menthe.
Un thé nana.
Un quoi ?
Un thé nana. Nana, c'est la menthe.
D'accord, dire, et puis un café aux épices aussi pour les amateurs de café.
Ouais,
encore, les épices.
Alors, les épices, ça dépend des régions au Maroc. Moi, je suis de Oujda, qui est à la frontière algérienne. Et nous, on met pas mal d'épices dans notre café. On met du gingembre, de la cannelle. Ouais. Voilà.
Bon, ça gâche pas le goût du café, ça.
Pas du tout.
Hein bon, ouais. On essaiera. Merci Abdel Alaoui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alimentation Générale est parue aux éditions de La Martinière. À bientôt.
Merci.
Sur toutes ces saveurs, on a l'eau à la bouche avec la chronique des libraires tous ensemble pour les coups de cœur et les coups de gueule. On commence avec le Canada, Marie-Hélène Vaugeois, et un coup de gueule concernant les salons du livre. Ça tombe bien, on rentre de celui de Genève.
Oui, et quelques semaines avant, il y avait celui de Québec,
oui.
Où j'ai remarqué en me promenant dans les allées que les gens s'extasiaient de voir les vedettes du petit écran. Évidemment, la plupart avaient écrit un livre, mais on sentait bien chez les fans que ce qu'ils voulaient, c'était rencontrer leurs vedettes, prendre le selfie avec eux. Et je trouvais que ça mettait le livre en arrière-plan, alors que ça devait être sa fête. Je trouvais ça un peu dommage.
Eh oui, c'est le cas. On vient voir les vedettes au salon du livre aussi, ça arrive. Bon, écoutez,
il
en faut pour tout le monde. Hein ?
Tout à fait.
On va dire ça. Annick Dor, en Belgique, un coup de cœur, vous, dans le rayon des livres de poche.
Voilà, oui, pour un roman qu'on doit au Belge Giuseppe Santoliquido, qui s'intitule « L'audition du docteur Fernando Gaspari ». Alors, le contexte, c'est celui de l'immigration italienne en Belgique et de la montée du fascisme en Europe, des sujets que l'auteur politologue connaît bien. Alors, je tiens à préciser que c'est un roman assez lent et qui donne beaucoup d'importance aux détails, ce qui pourrait lui donner un petit côté vieillot, mais moi, je trouve que ça contribue surtout à créer une atmosphère singulière et d'étrangeté qui souligne, en fait, la question centrale du roman, qui est celle de l'engagement. Donc, ça vaut la peine de le découvrir.
Bien, Santoliquido, que l'on avait reçu, d'ailleurs, dans cette émission pour un autre livre. Ouais. Là, vous parlez de l'audition du docteur Fernando Gaspari chez Espace Nord. Merci, Annick Thomas Auxerre, en France. Un coup de gueule sur une star de la littérature.
Bah oui, Emmanuel, alors c'est pour le dernier Philippe Dian qui s'appelle À l'aube, c'est aux éditions Gallimard. Alors moi, c'est un roman qui m'a emporté pendant toute ma lecture, c'est bien écrit. Il y a un petit côté raboté, Dian va à l'essentiel, c'est super efficace, c'est une histoire terriblement prenante, ça ressemble à une série américaine, hein, si vous voulez, on lâche pas une seconde.
Et ben.
Alors vous allez me demander pourquoi un coup de gueule.
Oui.
Alors c'est très simple, c'est à cause de la fin, Emmanuel.
Ah.
Alors ça se joue sur une page, voire même un paragraphe, mais alors moi ça m'a mis en rogne, vraiment ça m'a mis en colère.
Une page, ça vous a mis en rogne?
Alors si vous voulez, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On se dit, non mais là, il se fiche de nous. Moi, je l'ai pris pour moi, hein. Vraiment, j'étais en colère.
Je l'ai pris pour moi.
Alors après, il y a deux clans à la librairie. Il y a ceux qui m'ont dit, non, je comprends pas, la fin m'a beaucoup plu et le bouquin m'a beaucoup plu. Et puis il y a ceux comme moi qui se sont dit, non mais...
La fin gâche tout.
Révoltons-nous, quoi.
Bon, bah écoutez, fallait pas lire la fin.
Là, voilà.
S'arrêter avant.
Mais j'invite les auditeurs à faire leur opinion.
Alors vous allez intriguer tout le monde là pour le coup, hein. Effectivement, mais il faut lire tout le livre, pas seulement la dernière page, ça servira à rien.
Ah ben tout le livre,
il faut avoir tout le livre. Merci Thomas, Philippe Dian, c'est chez Gallimard, À l'aube, c'est le titre.
C'est ça.
Dominique Bressou, et si on parlait d'horlogerie suisse, ça faisait longtemps.
Eh ben oui. En fait, c'est dans le canton de Neuchâtel où je vis qu'ont été créées les plus belles horloges du monde et les plus connues et même reconnues par l'UNESCO.
Oh.
Alors, si vous voulez en apprendre plus sur quelques merveilles horlogères et le beau métier d'horloger, vous allez voir le très beau livre collectif en coffret avec CD chez Alphil. C'est Automates et merveilles, rêve en trois temps. Vous serez absolument ébloui par ces splendeurs destinées bien plus à vous faire rêver qu'à mesurer le temps. Même si elles le font d'ailleurs. Elles mesurent le temps quand même. Hein.
Tic-tac, tic-tac, on est un petit peu en retard.
Merci
Dominique Bressou, Automates et merveilles chez Alphil. Dans un instant, l'histoire abracadabrante d'Alexandre Brandy. L'auteur s'est fait passer plus jeune pour un membre de la famille Kadhafi, Assad ou encore Hariri pour faire un braquage par jeu. L'histoire est vraie et lui a coûté 2 ans de prison ferme. Avant cela, voici le chanteur sénégalais Youssou N'Dour qui reprend un titre de Brassens que vous allez forcément reconnaître.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit, ouvre ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertaines. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure. Je te porte dans moi, comme un oiseau blessé, et cela sans savoir, nous regarde passer, répétant après moi ces mots. que j'ai tressé et qui pour tes grands yeux aussitôt mouru. Il n'y a pas d'amour. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurer dans la nuit, nos deux allumes sont ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglot pour une air de guitare. Il n'y a pas d'amour.
Yusundur, il n'y a pas d'amour heureux, que vous avez reconnu donc dans la librairie francophone.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Alexandre Brandy est dans la librairie pour un roman incroyable. On poursuit dans l'inattendu et la surprise. Alors que vous étiez un jeune étudiant, vous vous êtes lancé dans l'usurpation d'identité. Vous dites que c'était un jeu, une illusion. Être le neveu de Kadhafi n'a posé de problème à personne.
Non, ça a été la chance de tout le monde. Ça a été la chance de tout le monde. Le Kadhafi, il n'a posé de problème à personne. L'illusionniste tout à l'heure parlait des failles de l'esprit, du cerveau, du raisonnement. La faille que j'ai pu trouver, c'était celle qui jouait sur le nom, la force du nom Kadhafi, qui permettait de charmer, d'éblouir toutes ces personnes que j'ai rencontrées.
Vous visitez des demeures comme ça, des châteaux, des appartements de luxe, en faisant croire aux agents immobiliers que vous avez beaucoup d'argent à dépenser. Et tout commence par ça. Vous négociez ferme d'ailleurs, jusqu'au quart du prix.
Oui, ça m'est arrivé de négocier, d'aller jusqu'au bout des négociations et de partir au moment de signer le contrat, quasiment.
C'est-à-dire qu'un appartement à 6 millions, vous l'avez touché à 3 ou 4?
Oui, c'est ça, en négociant.
Ouais. Enfin, vous l'avez touché, vous ne l'avez pas acheté du coup.
Non, mais j'aurais pu.
Ouais.
J'aurais pu l'avoir à la moitié du prix.
Pourquoi vous disparaissez comme ça au moment de l'acte?
Parce que je n'ai pas les millions pour acheter l'appartement d'abord.
Mais vous auriez pu aller jusqu'au bout, de signer quand même.
Oh non, parce que là il aurait fallu présenter des papiers, des preuves, etc. que je n'avais pas. La seule force de l'illusion était celle du nom.
Alors vous passez un cap lorsque, sous le nom d'Omar Al-Assad, vous visitez un hôtel particulier ultra sécurisé. On vous montre le coffre, ce qu'il y a dedans, des diamants.
C'est une chambre forte.
Chambre forte, oui. Et pour vous prouver que tout est sous contrôle, on vous dit, voilà, ben regardez, on a cette chambre forte avec tous ces bijoux, tous ces diamants. L'idée concrète du braquage, elle germe en vous à ce moment-là, quand vous entrez dans cette chambre forte?
Non, avant, quand je prends l'identité d'Assad, c'est pour en terminer avec ce jeu que j'avais commencé avec Hariri et Kadhafi. Assad, c'est pour en terminer. Je précise qu'à l'époque, Assad n'était pas connu comme il l'est aujourd'hui.
Bachar al-Assad, oui.
Oui.
Enfin, il était déjà en place, mais...
Il était déjà en place, mais il n'était pas encore... Il prenait la suite de son père, il n'avait pas encore tué, massacré son peuple.
Sinon, vous auriez choisi un autre nom?
Je ne sais pas, celui-ci s'est présenté, il était parfait, je l'ai pris. Mais aujourd'hui, c'est très difficile, parce que les avoirs de la famille Assad sont saisis. Enfin, c'est très difficile aujourd'hui, on ne pourrait plus le prendre. Il n'est plus aussi discret.
Vous vous amusez hein, comme ça, Alexandre Brandy, un certain temps. Vous rencontrez aussi dans une bijouterie une femme qui a le double de votre âge, une cougar, hein, comme on dit aujourd'hui, qui vous initie à une sexualité inattendue, très crue. Elle veut que vous la léchiez comme une... Bref. C'est pornographique, par moments, votre livre. On a vraiment l'impression que vous vivez un grand fantasme.
Ah oui. Cette aventure m'a permis de sortir de ma chambre d'une certaine façon. Et j'ai découvert à la fois la capitale, que je ne connaissais pas, et le sexe aussi que je découvrais.
Oui, les coulisses de la capitale.
Les coulisses de la capitale et de la sexualité aussi. Oui.
Ça vous a excité?
Oui.
Pas tant que ça, j'ai l'impression.
Pas de la même façon, c'est-à-dire que la visite de la capitale et la visite chez Kim, le personnage dont vous parliez.
La cougar,
oui.
Oui, ça c'est pas pareil. Ouais.
Non, ce n'est pas la même excitation.
Non.
il y avait une excitation triste peut-être avec les agents immobiliers.
Oui.
Et une excitation plus intime avec cette femme. Enfin, mais c'est deux choses différentes. Mais ce n'était pas une grande excitation, non.
En tout cas, vraiment, Alexandre Brandy, avec des digressions sur votre famille, sur votre enfance, on constate que vous avez un traumatisme, un mal-être qui vous pousse à une forme de suicide. Vous parlez de ce mot d'ailleurs, vous l'utilisez plusieurs fois, le mot oui. suicide. En faisant ce braquage, vous compensez vos idées suicidaires ?
Oui, et c'est pour ça que le terme d'excitation n'est pas le plus approprié à l'état d'esprit.
C'est pour ça que je vous demande.
Oui, oui, on était plus proche d'un jeu dangereux qui a mené à un quasi-suicide. Oui, parce que j'aurais pu me faire abattre dans l'hôtel particulier au moment du braquage. Quand je croise le majordome dans les escaliers, il aurait pu être armé, légitime défense. Voilà, on n'en parle plus. Ou bien après encore, avec l'arrestation chez moi, devant ma mère, où les policiers me braquent avec leur arme. Oui, j'aurais pu aussi me faire... Et ça aurait pu... Oui, enfin, c'est un suicide qui a été accompli, d'une certaine façon, un suicide heureux.
Ouais.
Parce qu'il se termine heureusement.
Mais c'est vrai qu'on peut se suicider socialement. Quand on est au fond du trou, comme on dit, quand on n'a plus rien à perdre, qu'on ne croit plus en rien, on peut, comme ça, tout désinguer, se mettre à l'écart et prendre tant de risques qu'on joue avec la vie. C'est ce que vous avez fait.
Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a à la fois un suicide social, comme vous le dites, et il y avait le jeu dans la société qui était... Enfin, oui, mais il y a un suicide social, oui, un suicide... qui était le propre de l'âge. À 20 ans, certains tombent dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, dans je ne sais quoi, le djihad aujourd'hui. Je ne sais pas, moi ça a été ça.
Vous, ça a été les braquages et le...
Les impostures d'abord et le braquage ensuite, oui.
Et le suicide.
Une forme de suicide, oui. Mais le terme, oui, je l'utilise dans le roman, il est approprié.
Trois libraires sont avec nous et ont lu ce livre. Alexandre Brandy, La France, le Canada et la Suisse. Thomas Auxerre, En France, comment s'est passée votre lecture ?
Bah écoutez, moi, c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. On lit deux pages et puis on part pour toute une après-midi sans le lâcher. Très malicieux. Il donne envie de savoir jusqu'à quel point ce que vous dites est vrai. Votre histoire est fascinante. C'est vertigineux. Vous avez aussi une écriture très agréable. Vous vous épargnez pas. Hein. Vous en prenez aussi pour votre grade un petit peu. Et puis, je pense que c'est un livre qui peut aussi plaire à beaucoup de gens par son aspect social. Enfin, nous, on le conseillera avec grand plaisir.
Tout est vrai.
Tout est véridique.
Oui, tout.
Tout est véridique. Les grandes lignes sont véridiques. Les impostures, le braquage, la prison.
Marie-Hélène Vaugeois au Canada, êtes-vous d'accord avec votre confrère français?
Oui, tout à fait. La crédulité des agents immobiliers dans ce livre est particulièrement fascinante. Est-ce que c'est à cause de son sujet? Mais tout au long de la lecture, on se demande, on a envie de démêler le vrai du faux, surtout comme c'est marqué roman sur le bouquin.
Oui.
Mais l'auteur nous a bien eu, c'est lui qui tire les ficelles.
Bien, vous allez commettre ce braquage sans violence, Alexandre Brandy. Vous attendez qu'on vienne vous arrêter, mais ça prend plusieurs jours. Et vous commencez à vous inquiéter. Vous dites, si on ne m'arrête pas, je me suiciderai. Vous avez des axiomes comme ça, vous déclinez plusieurs possibilités. Et vous dites après, on peut difficilement nier son suicide. Je reconnus donc le vol des bijoux. J'ai même revendiqué ce vol et tout le reste avec. Vous avez vraiment eu peur qu'on ne vous arrête pas ?
Oui, je l'ai craint. Effectivement. Et quand je parle des aveux formels, ceux de la garde à vue, ça a été véritablement un soulagement pour moi d'avouer ça et de que l'on m'arrête enfin, finalement, dans le temps aussi et dans l'espace. J'étais arrêté, j'étais quelque part, j'étais fixé en prison pour un temps, mais j'étais d'une certaine façon en sécurité, arrêté.
Qu'est-ce qui se serait passé si vous étiez resté en liberté ? Vous auriez avoué ?
Le suicide, je le crois.
Ah oui.
Je pense que
vous
serais suicidé réellement.
Vous n'auriez pas eu l'idée d'aller au poste, par exemple, dire
«
c'est moi ». Non.
Non, par orgueil, sans doute.
Ah, orgueil.
Je voulais qu'on m'arrête. Je ne me serais pas rendu. Enfin, je n'aurais pas fait ça pour aller me rendre et dire « voilà ». Non, je voulais qu'on m'arrête et je voulais expliquer mon geste, comme on dit, à des policiers d'abord, à une juge ensuite.
Vous le referiez, là, ou pas ?
Non.
Non. Vous pourriez le refaire plus tard ?
Non.
Vous êtes sûr ?
Oui.
Votre avocat commis d'office veut vous éviter la détention en requalifiant les faits, minimisant votre acte, qui était un jeu donc, et dont on a retrouvé d'ailleurs les 700 000 euros de bijoux, sauf un petit bracelet que vous aviez donné à la cougar. Tout était dans votre chambre d'ado, et vous lui dites à votre avocat, « Maître, j'espère que vous plaisantez, je n'ai pas fait tout cela pour retourner chez ma mère. » Et vous dites, « Mais vous voulez vraiment aller en prison ?» Vous dites, « Bah oui. »
Oui. C'est-à-dire que quand je partais le matin chez moi de cette chambre d'adolescent pour visiter Paris, je découchais d'une certaine façon. Et je n'avais pas envie de retourner dans mon lit et de retrouver ma mère et ma vie d'avant. Je voulais en passer à... Et il y a quelque chose du rite initiatique dans la prison, dans l'étape, dans le passage à l'âge adulte. Il y a quelque chose de cela.
Enfin, vous faites moi le malin quand vous arrivez en prison, quand on vous déshabille intégralement.
Qui fait le malin en arrivant en prison ?
Oui, non mais bon, quand on l'a cherché, on se dit bon, voilà, on va jusqu'au bout, mais on sent que c'est difficile. Vous l'écrivez d'ailleurs, vous dites « La prison fut un passage, un long crépuscule, une mort civile ».
C'est le cas pour chacun.
Il y a une destruction dans la prison, effectivement, sociale. On parlait tout à l'heure du suicide social, il y a ça. Dès qu'on entre dans la prison, on est ailleurs, dans le temps, dans l'espace. Dans l'espace plus encore, puisque maintenant les prisons sont éloignées des villes, mais on est à l'écart de la société. C'est une mort civile, effectivement. Je ne le dis pas mieux.
Comment vous l'avez supporté, ce moment, enfin ces 2 ans en prison ?
À part... J'ai attendu comme j'attendais avant. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai fait 16 mois comme... Je ne sais pas.
Et votre mère n'y croit pas, hein. Elle ne croit pas à votre culpabilité. Elle va aller voir les policiers en disant « Mais non, c'est pas possible. Quand il est contrarié, il vomit. Donc c'est pas possible qu'il ait commis un braquage. C'est impossible. Elle ne croit pas du tout à cela. » Vous êtes un peu vengé d'elle, un peu vengé de vos parents. Vous vouliez les mettre face à ça, face à une forme de responsabilité ?
C'était aussi une façon de parler aux adultes, oui.
Ah oui.
Quand je parlais de soulagement tout à l'heure devant les policiers, devant les juges, il y avait ça, oui. Une possibilité de parler. Enfin, on en aime écouter.
Exister, quoi.
Exister, oui, c'est le propre du roman, oui. C'est de trouver une façon, avec des identités d'emprunt d'abord, une façon d'exister, oui, d'être au monde. Et aujourd'hui, il y a la littérature, qui permet d'être au monde d'une autre façon.
Donc du coup, vous existez différemment, avec votre livre et grâce à votre passé.
Oui, les deux sont liés, évidemment.
Vous avez un problème, un complexe d'infériorité ?
Absolument pas.
Non ?
Non.
De supériorité ?
Peut-être.
Bon, le mot de la fin pour un libraire, ça vous va ?
Ah oui.
Honneur à la Suisse, Dominique Bressoux.
Alors moi, j'ai adoré ce livre qui renverse complètement les rôles. C'est l'escroc décrit et de loin bien plus élégant que ceux qu'il réussit à flouer. Et en fait, le mensonge à ce degré-là, c'est une œuvre d'art. Et vous le décortiquez pour nous, un peu comme un magicien qui révélerait ses secrets. Et même si vous volez et trompez entre autres un libraire, ce qui se fait pas, je pense quand même qu'ils vont adorer votre autobiographie pour son originalité.
C'est vrai que vous trompez un libraire qui vous propose un appartement, sauf que le libraire est légèrement facho, en tout cas antisémite.
Plus que ça.
Oui, c'est ça, plus que ça, il est horrible. C'est vraiment
une ordure.
C'est une ordure, mais vraiment, il est comme ça, il était comme ça.
Oui, vraiment.
Ouais. Donc il y a des libraires ordures, hein, disons-le, dans cette émission.
Oui. Et les caricatures existent également.
Les caricatures existent également. Une dernière phrase à propos de la prison. Vous écrivez « Bien avant la misère, c'est la haine que l'on rencontre en prison ».
Oui, la haine de l'autre. Véritablement, la haine, on parlait d'antisémitisme, qui est très présent en prison, la haine de la justice, la haine de la société, qui peut s'expliquer peut-être, je ne sais pas, mais il y a une haine véritable, oui, en prison, oui.
Alors c'est drôle parce que tout votre parcours, quand vous allez dans ce milieu huppé, ultra-bourgeois, avec ses demeures, ses châteaux que l'on vend, il y a une forme de haine, il y a une forme de condescendance, il y a quelque chose de très malsain dans le milieu que vous fréquentez.
Oui, quelque chose de malsain et de très mercantile, c'est-à-dire qu'on a voulu me vendre la France. Ouais. On voulait me vendre du patrimoine français à un arabe dictateur. En gros, c'est ça, l'histoire. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, oui.
Vous jouez à quoi maintenant, vous ?
Je joue à écrire des romans.
Très bien. Tout est possible.
Tout est possible.
Bien. Merci beaucoup Alexandre
Merci
Brandy. Merci infiniment. Il y a longtemps que je mens, c'est votre premier roman. Un roman étonnant, vous l'avez entendu. Absolument incroyable. Il est paru aux éditions Grasset.
La librairie francophone, Emmanuel Guérald.
Et avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone, voici la chanteuse Marie-Flore avec un extrait, et on n'a pas fait exprès, je vous jure, un extrait de Braquage.
21h, gonfle la rumeur, tes mots ne seraient qu'un leurre. Et lorsque tu songes à stopper, tu replonges, je rêve que l'on s'allonge. Tu me donnes à voir mon ange, un spectacle qui dérange, et comme la nuit te change. T'es mon braquage, mon ange, un saccage, mon challenge, je t'aime et me démange. T'es mon braquage, mon ange, un saccage, mon challenge. Je traîne dans tes parages, en nageant 12 ans d'âge, provoque les dérapages. Et à quoi cela s'apparente-t-il si cette nuit je n'ai pas dormi? Hier je t'avoue, je t'ai pas senti. Ouais. T'es mon braquage, mon ange, un saccage, mon challenge. Je t'aime et me démange. T'es mon braquage, mon ange, t'es mon braquage. s'arrange, tu tires et tout s'arrange. J'attends, tu joues la montre, sais-tu ce que l'on me raconte? La fièvre au front me monte. Et dans la pénombre des clubs, je compte plus vraiment nombre des pétasses que tu tapes, que tu tombes. Alors je serai pas à l'heure, d'ailleurs c'est moi qui briserai le cœur en mille taches de rousseur. Tête, tête, mon braquage, mon ange, ma gâchette sous phalange, comme t'aimais est étrange.
Marie-Flore, Braquage, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Alexandre Brandy. Merci beaucoup Abdel Alaoui. Luc Langevin, à très bientôt. À la réalisation, Henri Marc Mutel avec Philippe Duclos, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Follet et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. La semaine prochaine, Claire Castillon qui vous parlera des hommes maltraités, Samy Tchak pour des pensées philosophiques africaines et Cérone pour un autoportrait sulfureux. Bonne semaine, bon week-end.